à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeurs de Calade Radio, bonjour. Vous écoutez à 23 pas du mystère, l'émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. Et nous voici au mois du retour du printemps. Oui, c'est ma petite tradition depuis cette année. Je m'accroche aux saisons comme le malheureux s'accroche aux branches. Et donc la question inévitable qui se pose, c'est pour ce mois du retour du printemps, de quoi allons-nous parler, ô grand maître Jérôme? Mais attends, on dit un petit bonjour à Miss Lemon, parce que sinon elle va se sentir un peu délaissée.
Bonjour Miss Patrick, Lemon. Qui est quand même assez poétique avec son retour de printemps, c'est parce que tu aurais pu dire retour là, d'âge, c'était cool. Quand même un peu moins poétique, c'est bien.
Non.
Quel effort.
Alors bonjour. Grand maître de cérémonie Jérôme, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Bien, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité qui est celui de la pollution de l'air.
Et voilà comment on casse le moral aux auditeurs.
Le printemps prend un coup.
Je commençais en forme et tout, joyeux.
Voilà, là, ça fini. Plombe un peu l'atmosphère, c'est le cas de le dire. Donc la pollution, c'est le corollaire de notre société industrielle, c'est pas une découverte.
Malheureusement.
Et malheureusement, en plus, ça ne date pas d'hier. Alors par exemple, j'ai pu trouver un exemple dans une nouvelle dont j'ai parlé le mois dernier, donc ça nous permet de faire le lien en plus d'une émission à l'autre. Donc le mois dernier, vous avez parlé de Loveday Brooke, une détective de la fin du 19e siècle.
Oui.
Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve dans une des nouvelles? Et une référence justement à la pollution de l'air à Londres. Alors je vous lis un court, très court extrait. Au début de la nouvelle, la congrégation de Red Hill, eh bien Loveday nous décrit le temps à Londres. C'était un matin maussade de novembre, tous les becs à gaz dans le bureau de Lynch Court étaient allumés. Et un manteau jaune de brouillard enveloppait ses fenêtres étroites.
Voilà. Non, mais il faut savoir que Londres, avec la révolution industrielle, ce sont les précurseurs de la pollution urbaine, et c'était un enfer dès la fin du 19e siècle.
Tout à fait, même avant, en fait, on a des témoignages même avant, on va en reparler un peu plus tard avec Miss Lemon. Si on veut un autre exemple, une émission que j'ai écoutée récemment, qui, sur France Inter, où l'on parlait d'un brouillard toxique dans la vallée industrielle de la Meuse, donc en Belgique, en début de décembre 1930. Et
D'accord.
Je vous invite à écouter cette émission. Donc, c'est une émission de Fabrice Drouel dans sa série Affaires sensibles sur France Inter, dont je mettrai les références dans le podcast. Et puis, en fait, à Villefranche, on est un peu sensible aussi à cette pollution, puisqu'on a quand même une ville avec une usine de pesticides, une usine d'engrais, des milliers de voitures qui défilent aussi bien sur l'autoroute à côté que traversent la ville pour aller d'un point à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc voilà, on est un peu sensibilisé à cette problématique. Alors rassurez-vous, parce que le thème va quand même être abordé sous l'angle de la fiction. Alors on aura des références à des événements réels, bien sûr, mais aussi imaginaires. Et puis on va aller puiser nos exemples dans la science-fiction, principalement, mais aussi dans le roman policier d'espionnage, avec Miss Lemon. Et puis nous terminerons en vous emmenant faire un tour en voiture, mais pas n'importe lesquelles, des voitures à essence,
bien sûr.
Ah, il faut de la pollution quand même.
De grosses,
CO2 et
de grosses voitures américaines des années 50.
Alors là, c'est au top.
Au secours.
Qui seront pilotées par notre chauffeur attitré, Nicolas Verdant. Voilà, ça va être parti pour une petite heure à 23 pas du mystère.
À 23 pas du mystère.
Calade. Avant de parler de pollution, on va commencer, comme le veut toute bonne méthode qui se veut scientifique, par définir en fait notre objet d'étude. Donc on va commencer basiquement par se demander qu'est-ce que l'air, simplement. On va revenir aux fondamentaux. Donc l'air, brièvement, c'est un mélange de gaz qui constitue l'atmosphère et qui rend possible l'existence des êtres vivants, aussi bien les animaux, les humains que les plantes. Donc dans ce mélange de gaz, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve 78% d'azote,
D'accord.
Qui est utilisé par les plantes pour se développer. Mmh. 21% d'oxygène, qui lui est essentiel pour les êtres vivants, hein, comme vous et moi. On trouve également du dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui n'est pas tout le temps néfaste, puisqu'il est aussi utilisé par les plantes lors de la photosynthèse.
Tout à fait, oui.
Donc pour produire de l'oxygène et de l'énergie, mais qui est aussi un important gaz à effet de serre, contribuant au réchauffement climatique, dont on parle beaucoup.
Quand il s'accumule en excès.
Voilà. Et on trouve également de la vapeur d'eau, H2O, qui va jouer un rôle important lors d'épisodes de pollution. On aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission. Et puis différents autres gaz mineurs dont je vous passe l'énumération. Alors, ensuite, la pollution de l'air, ça va correspondre à la présence plus ou moins importante de substances nocives qui vont être dégagées soit par des phénomènes naturels, soit par l'homme et ses activités. Donc, parmi ces substances nocives, on aura le dioxyde de soufre qui va être libéré, par exemple, lors d'éruptions volcaniques.
Oui, par les volcans,
Mais aussi par les usines. On a du monoxyde de carbone, rejeté lors d'incendies de forêt qui se multiplient ces derniers temps, lors de la combustion de bois, de charbon, de pétrole, de gaz naturel, tout ça donc par les industries, par les habitations.
Et aussi le bon vieux feu de cheminée à l'ancienne,
tout à fait.
Ça en dégage du
monde. Et les véhicules à moteur, bien sûr. Nous avons également dans le cocktail du dioxyde d'azote, qui va être rejeté par les véhicules à moteur également.
D'accord.
Du dioxyde de soufre, lui rejeté par les usines de préférence. Et puis différentes poussières qui composent des particules fines, qui sont, alors, bien sûr, de production industrielle, mais qui peuvent être également soulevées par les tempêtes et les vents violents qui se multiplient à notre époque. Voilà, donc tout ça va détériorer la qualité de l'air. Et donc, les effets sur la santé des personnes, des animaux et des végétaux sont nombreux. On a des problèmes respiratoires, on a des allergies qui se multiplient, des problèmes de peau et des infections, des maladies cardiaques, des cancers du poumon, donc dans les voies respiratoires, et puis des accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC, qui sont généralement mortels.
Quel tableau charmant.
Voilà. Alors, il existe à présent des systèmes de surveillance de la qualité de l'air qui vont mesurer différentes stations, les polluants présents dans l'air.
Notamment le fameux AirParif à Paris.
Voilà, et qui vous donne des données accessibles en ligne qui vous permettent de mesurer la qualité de l'air dans différentes villes, notamment la ville où vous vivez, par exemple. Donc, il y a plusieurs plateformes. Il y a Prévert, Atmo France, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour nous brosser le tableau général. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va se demander quelles sont les solutions possibles pour lutter contre cette pollution. La solution la plus simple, ça serait de réduire la pollution. Plus simple en théorie plutôt qu'en pratique. Et puis, il y a une autre solution qui serait de s'adapter à la nouvelle composition de l'air, c'est-à-dire d'arriver à respirer des substances nocives, qu'on considère nocives. Et en fait, c'est ce qu'a proposé en 1974 un romancier populaire dans un roman qui s'appelle « Planète polluée », dont Patrick souhaitait particulièrement nous parler aujourd'hui. À toi, Patrick.
Alors, comment vous dire ? Bien, effectivement, le thème de l'émission étant la pollution, j'ai reçu une offre du type, une offre que vous ne pourrez pas refuser. Vous avez remarqué l'extraordinaire, imitation de Coppola et du parrain que je viens de faire.
Ouais, qui mériterait un Oscar, au moins.
Exactement. Et mon parrrain, moi, c'était Don Jérôme, donc
peut-être
entendu parler de lui,
ça.
Voilà. Qui m'a conseillé de lire le fameux roman « Planète polluée » du romancier Paul Bérat. Et Paul Bérat, en fait, c'est Paul Bérateau. Parce qu'en fait, son vrai nom, c'est Paul Bérateau. Il a publié une quantité assez impressionnante de romans en tout genre, sous plein de pseudonymes. Et Paul Bérat, c'était un de ses pseudonymes pour ce roman de science-fiction, précisément, « Planète polluée ». Alors, de quoi ça cause ce truc? Vous sentez l'enthousiasme extraordinaire qu'il y a dans ma voix? L'action se passe sur notre bonne vieille planète Terre, mais quelques centaines d'années, donc après une guerre atomique, qui a visiblement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un monde ultra pollué. Sauf qu'on est plusieurs centaines d'années après, et on va suivre les aventures d'un jeune terrien qui vit en surface, et on comprend assez vite qu'il s'est adapté, lui et ses congénères, au niveau de CO2 absolument énorme de la surface, mais qu'il existe d'autres terriens qui ne se sont pas acclimatés et qui vivent donc sous terre. Et quand ils sortent à la surface extérieure, eh bien, ils sont protégés par tout un tas de vêtements, de masques à gaz, etc., etc. Pour information, sur la planète Terre donc, de cette époque, si vous passez 1500 mètres d'altitude, c'est bon, vous retrouvez un air respirable. Et donc, on a deux catégories d'êtres humains. On a ceux qui se sont adaptés et ceux qui ne sont pas adaptés. Et ceux qui ne sont pas adaptés vivent dans ce qu'ils appellent des terriers, donc une sorte de caverne. Mais par contre, ce sont eux, les non-adaptés, qui ont gardé la maîtrise de la technologie moderne, en quelque sorte. Et allez savoir pourquoi. Ils pourchassent les terriens de la surface parce qu'ils considèrent que ce sont des mutants. Et les mutants, c'est pas bien. Et donc, ça, c'est un peu le tableau de départ de ce roman. Et on va suivre un héros qui est un mutant, c'est-à-dire un terrien de la surface, qui eux sont plus en mode, pas homme des cavernes, j'abuse un peu, mais pas loin quand même, hein, d'accord, au niveau technologie. Et bon, divers événements vont faire qu'il va rencontrer une membre d'un autre terrier qui a cette particularité qu'il ne pourchasse pas les mutants, une femme, d'accord, il va tomber amoureux, mon Dieu comme c'est original, et... On va aussi découvrir, avec tout un tas d'aventures, il se passe plein de choses, hein, je ne vous raconte pas parce que je ne vais pas spoiler, je suis, vous le savez, un personnage.
Un saint devenu un
voilà,
saint.
Exactement. Et donc je ne spoil pas, mais il y a plein d'aventures, de rebondissements, et dans ces rebondissements, on va découvrir en fait qu'il est doublement mutant, c'est-à-dire qu'à la fois, il est capable de respirer l'air de la surface, mais il est aussi capable de respirer l'air pur des terriers, alors qu'en fait, ses congénères meurent quand ils respirent l'air pur des terriers. Donc c'est quelque part... l'annonciation d'un futur possible, puisque avec la petite chérie dont il est amoureux, même si les choses sont un peu plus compliquées que ça, l'idée c'est de faire des enfants, et donc de faire des enfants qui pourront vivre à la fois donc, dans les terriers sous terre et à la surface, et qui pourront repeupler la Terre. Voilà, je vous ai tout dit. On a là ce qu'on appelle un roman de gare, construit avec habileté, avec des ficelles plus ou moins grosses. C'est un roman qui se lit très vite et qui s'oublie tout aussi vite. Et pour information, alors, comment dire, le thème de la pollution, mis à part ce que je viens d'expliquer, n'est pas franchement abordé. C'est juste un roman d'aventure.
Alors, c'était donc précise
un très bon choix.
Je précise que les jugements de Geek Patrick, qui sont assez élitistes, dans une hiérarchie littéraire qu'il semble établir,
n'engage que lui,
tout à fait. En signalant qu'il y a quand même de nombreux amateurs de cette collection en fleuve noir anticipation, pourraient voir leurs poils se rebrousser.
Et qui pourraient nous envoyer des messages.
Voilà. Exactement, voir des
très bien,
menaces.
Donc je les dirigerai vers toi pour une réponse adaptée. Alors, après cette intervention dont je te remercie,
enthousiaste
disciple, on va rester dans la science-fiction et je vais vous parler de deux nouvelles d'auteurs états-uniens qui correspondent à notre thème. Alors, une première nouvelle qui est vraiment courte, qui fait 7 pages, écrite par un auteur, je pense, absolument inconnu, qui s'appelle Robin Scott, qui était un universitaire californien,
d'accord,
qui a aussi écrit un peu de SF, et qui, en 1965, publie une nouvelle qui s'appelle Drôle d'air, Near Thing, en anglais. Alors, dans cette nouvelle, eh bien, on nous raconte comment une race extraterrestre, qui s'appelle les Garioni, qui est un peuple féroce, cruel, qui aiment le combat singulier, qui est assoiffé de sang, eh bien, ces Garioni se mettent à la recherche d'une nouvelle planète habitable pour y implanter leur population qui est en rapide expansion. Ils se reproduisent aussi très vite. Alors, ils lancent des sondes en direction d'un millier de planètes environ, à la recherche de l'exceptionnelle combinaison de radiation solaire, de composition atmosphérique et de teneur en eau, apportant la preuve qu'il existait un monde ouvert à l'expansion des Garioni. Une des sondes va découvrir un candidat potentiel, la troisième planète d'un certain soleil jaune à amplitude négative.
Donc notre planète.
Dont le rayonnement présentait les caractéristiques requises, possédait d'abondantes réserves d'eau et une atmosphère très voisine de celle à base d'oxygène, d'azote et d'anhydride carbonique, qui était la clé du pullulement prolifique de la vie sur la planète Garion. Je cite la nouvelle. En plus, il se doute du fait que cette planète qui a l'air mirobolante va être habitée. Okay. Et donc, il s'empresse de constituer un corps expéditionnaire muni d'armes de destruction massive avant d'aller débarquer sur la planète.
Oui, c'est la moindre des choses quand même d'anticiper un peu ce qui t'attend.
Alors, ils envoient quand même une autre sonde pour faire des analyses plus poussées avant de débarquer. Et c'est là que le genre humain, donc, puisque Patrick, par ses,
j'ai spoilé, c'était
ses connaissances scientifiques poussées, a découvert que c'était la Terre, eh bien, le genre humain, l'Homo sapiens, va avoir un coup de chance incroyable. Parce que la sonde atterrit aux États-Unis à côté d'une route nationale, juste à l'endroit où celle-ci s'élève légèrement avant de s'enfoncer à travers les terrains d'épandage industriel longeant les berges du Passaic, qui est un fleuve. Donc la sonde, la sonde commence à analyser l'atmosphère, la décompose en ses différents constituants et transmet les résultats à la planète Garion. Alors on y trouve de l'oxygène, de l'azote, de la vapeur d'eau, de l'argon, de l'anhydride carbonique. Tout concorde à merveille avec l'atmosphère de la planète. La population est en liesse, mais coup de massue. Eh bien, on découvre les pourcentages d'oxyde de carbone et d'hydrogène sulfuré. Et là, qui sont énormes. Et là, il y a une déception telle que les Garionis se laissent aller à leur fureur meurtrière habituelle. Et se déciment entre eux et résoudent comme ça le problème de surpopulation.
D'accord, c'est un petit peu coléreux, les gars.
D'accord.
Et donc, voilà comment la Terre a échappé.
Problème de gestion des émotions.
A été sauvée.
A échappé à une invasion extraterrestre. D'accord. Et la race humaine à l'extermination.
Football,
grâce à notre air pollué.
Voilà, exactement.
Il y a quand même un.
Tu vois, il y a un bon côté de l'affaire.
On a trouvé quand même le bon côté de la chose. Donc voilà, on a une nouvelle au ton humoristique qui, quand même, soulève un problème.
Les Garionis font penser au peuple des prédateurs dans la science-fiction. C'est quand même, ça ressemble un petit peu au portrait que tu as fait. Des gens querelleurs qui aiment se bastonner en permanence. C'est un peu les prédateurs.
On en trouve beaucoup.
Il me semble qu'il y en a beaucoup dans SF.
Alors on va passer à une nouvelle à la fois un peu plus longue et puis nettement plus dramatique. Là vous allez arrêter de rire.
On va sortir nos mouchoirs.
Qui, elle, est basée sur un événement réel qui s'est déroulé en octobre 1948. Dans une petite ville qui s'appelle Donora, dans la région industrielle de Pennsylvanie, près de Pittsburgh. Donc, où sont concentrés énormément d'usines. Fin octobre, donc à partir du 27 octobre, il y a une inversion, ce que les météorologues appellent une inversion de température, c'est-à-dire qu'il y a de l'air chaud qui est au-dessus, qui emprisonne de l'air froid en dessous. Eh bien, cette inversion de température va emprisonner les émissions de fluor d'hydrogène, de dioxyde de soufre et de gaz fluoré, provenant des usines métallurgiques de la ville. Ces émissions vont se combiner au brouillard et va produire ce que les anglo-saxons appellent un smog, en français.
Oui, comme le fameux smog londonien.
Un brouillard de pollution, donc un brouillard épais, jaunâtre, donc c'est ce dont nous parlait Love Daybrook aussi.
Ouais, tout à fait.
Un brouillard jaunâtre qui va peser sur cette petite ville pendant 5 jours. Et un brouillard si épais qu'on n'y voit plus grand-chose. Que conduire une voiture devient dangereux, parce qu'on n'a plus de visibilité. Les habitants se mettent à tousser, ont des difficultés à respirer. Entre un tiers et la moitié des 14 000 habitants ont des problèmes respiratoires. Et 20 personnes finissent par décéder.
D'accord.
Le 31 octobre, donc ça a commencé le 27, le 31 octobre, le maire demande au directeur des usines, devinez quoi, d'arrêter leur production. Parce que pendant tout le temps, ils ont continué à cracher des substances nocives.
Ouais.
Mais le même jour, la pluie tombe et disperse le brouillard. Et donc, les usines continuent leur production.
Le
comme
capitalisme
si
est sauvé.
Voilà. Donc voilà l'épisode réel, authentique de Nora, qui inspire donc un auteur qui s'appelle Frank Robinson, qui est un romancier et nouvelliste, né en 1926, décédé en 2014, qui, en 1972, écrit une nouvelle qui s'appelle « Vent d'Est, vent d'Ouest », qui est la traduction littérale du titre américain. Alors, dans ce... je vais spoiler un peu, là. Je vais faire mon geek Patrick, puisqu'il a laissé le créneau ouvert. Dans cette nouvelle, le narrateur, c'est un jeune enquêteur d'un organisme qui s'appelle Air Central, chargé de surveiller la qualité de l'air, donc dans un futur où l'atmosphère est quasiment irrespirable.
D'accord.
Alors, ils utilisent des appareils qui s'appellent des renifleurs, qui vont enregistrer les taux d'hydrocarbures et d'oxyde nitrique et sulfurique dans l'atmosphère. Et lorsque le récit commence, eh bien, la ville est depuis 4 jours sous une épaisse couche de condensation.
L'air nous mijotait un véritable Donora, évoluant vers une soupe chimique si infecte que je n'aurais jamais cru que cela possible si je n'avais pas essayé de respirer cette saloperie. Il restait collé dans ma gorge et j'avais l'impression que mes yeux baignaient dans l'acide. Le soleil était à peine visible, disque pâle et maladif dans un ciel moutarde. ce qui n'empêchait pas les rues d'être un vrai four. Avec ça, l'atmosphère était tellement chargée d'humidité qu'on aurait pu la saisir à pleine main et la tordre pour la débarrasser de son eau. Une eau qui n'aurait pas manqué d'être sale. Une bonne partie de l'air que nous respirions, tant bien que mal, était en fait de l'acide sulfurique dilué.
Alors pour sortir dans les rues, eh bien ce personnage enfile, et là on retombe un peu sur ce que nous a décrit Patrick, bah, il a une tenue en plastique et un masque de chirurgien, tandis que l'air est purifié dans leur bureau. Le taux critique de pollution devient vite dépassé, mais les politiciens ont autorisé les hauts fourneaux, les incinérateurs, à continuer de fonctionner au lieu de les arrêter, si on était plus
bien sûr.
Mais pour ne pas mettre 15 000 ouvriers au chômage,
bah
ce qui aurait été dramatique.
Bah oui.
Alors, on attend en fait du vent et de la pluie qui sont prévus le lendemain pour évacuer la pollution. Mais les employés d'Air Central suspectent qu'en fait que la météo indépendante ment, elle est à la solde des industriels, et qu'en fait la canicule qui règne dans la ville va durer encore au moins 3 jours. Notre narrateur, il est chargé, lui, pendant ce temps, d'une mission qui a l'air complètement dérisoire, de localiser une voiture à essence qu'on entend circuler la nuit dans un quartier de la ville, parce que à cette époque, eh bien, les véhicules à essence ont été interdits à la circulation pour essayer de limiter la pollution. Et donc, il y a eu ils ont été confisqués un jour qui s'appelle le jour de la restitution, où tout D'accord. propriétaire d'une automobile était censé l'emmener, D'accord. mais certains en ont caché. Et dans cette société, il est également interdit de fumer du tabac. Alors, vers le milieu de la soirée, la situation a empiré, bien sûr, puisque les usines continuent à travailler.
En dépit de leur masque, les gens commençaient à avoir des nausées et à vomir dans la rue. J'avais vu un homme essayer de craquer une allumette pour lire le nom d'une rue. Elle refusait de rester allumée, faute de quantité suffisante d'oxygène dans l'air. Les sirènes des ambulances émettaient désormais une plainte continue. La nuit allait être dure pour les cardiaques. Ils tomberaient comme des mouches avant la venue du matin.
Alors Jim accomplit sa mission, finit par démasquer le possesseur de la voiture et surprise parce qu'en fait il s'agit du responsable des renifleurs à Air Central qui a perdu complètement foi dans son travail et donc il voit qu'en dépit de ses efforts il aboutit à rien, donc il s'est dit tant que puisque c'est foutu,
perdu pour perdu,
foutu,
je garde
je
ma
me fais plaisir avec une voiture
parce que moi j'aime ma bagnole.
Voilà. Et alors la fin est assez dramatique, ne laisse pas d'espoir. Jim, le narrateur, téléphone son rapport à son bureau et apprend que la pollution ne sera plus jamais évacuée parce que, comme il le dit, le souffle du dragon avait fait le tour de la terre et les vents qui soufflaient étaient aussi pollués que l'atmosphère de la ville. Alors il conclut, personne ne s'était fait le moindre souci, ni ici ni ailleurs. Dave avait raison, raison à mort, ils avaient finalement tout transformé en égout.
Vous voyez, là. Et donc à partir de là, il n'y a plus besoin de renifleurs, parce que ça ne sert à rien de donner la qualité de l'air, vu que...
Tout à fait, non, mais là, c'est une nouvelle qui ne nous laisse aucun espoir sur la qualité de l'air. Alors, je pense qu'après ce texte
réjouissant,
nous allons écouter un peu de musique pour nous remettre.
Bien,
mais j'espère que les paroles vous remonteront le moral.
Allez, sinon, on va s'en aller avant la fin de l'émission.
C'est parti, on respire.
Moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Voilà, donc c'était, j'espère que ça vous a remonté le moral.
Bon, totalement, oui, alors, la musique au moins. Oui.
C'était donc Respire par Mickey 3D.
Choix musical tout à fait judicieux.
Merci cher Patrick. Eh bien, nous poursuivons toujours avec notre thème joyeux de la pollution. Mais à présent, je vais laisser la place à mes camarades. Et pour les encourager, je les autorise à utiliser leur jingle.
Oh,
qui a une magnanimité, n'est-ce pas?
Chouette.
Voilà. Alors, on va commencer par Patrick et sa petite
Encore
chronique.
Ah, ah bah oui.
Il casse les pieds, celui-là.
La chronique de Geek Patrick.
Eh bien, quand on entend ce petit jingle...
On saute de joie.
Non, on se doute absolument pas qu'il y ait de la pollution derrière et autour de nous. Non, mais c'est vrai. Bon, alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Mais figure-toi que la deuxième nouvelle que tu nous as évoquée, Jérôme, est une belle introduction au roman que je vais évoquer aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un roman qui s'appelle Le Troupeau aveugle, qui a été écrit par une pointure de la science-fiction anglaise et non pas américaine comme je le croyais, John Brunner.
Et la même année d'ailleurs que ma nouvelle, 72.
Ouais, tout à fait. Et ça c'est intéressant parce qu'on va voir qu'il y a vraiment une prise de conscience forte. D'ailleurs le roman affreux que tu m'as fait lire de Paul Béra, Planète polluée, date de 74. On est dans une époque, comment dire, où la civilisation industrielle est à son maximum aussi dans ses conséquences sur la vie au quotidien et sur la pollution de l'air, et est en train de refluer. Simplement ça se voit pas encore. Et aujourd'hui, clairement, les villes sont beaucoup moins polluées parce que, en fait, on a, grâce aux délocalisations et à la mondialisation,
oui, c'est ça, on a déplacé transféré la pollution
dans les pays pauvres, ouais, les pays en développement. Bref, fin de la parenthèse. Ce roman, donc, je présume que tu veux, ma chère Miss Lemon, en savoir plus.
Moi, je veux en savoir plus. Alors, c'est vrai qu'en des années 70, il y a eu quand même un petit rebondissement d'écologie, en fait.
Exactement.
C'était une prise de conscience
et d'un vrai démarrage de mouvement écologiste politique.
Ouais. Exactement. Alors, de quoi vas-tu nous parler? Dis-nous tout.
D'abord, je fais un petit flashback personnel. Nous sommes au début des années 80 et un ado de 15 ou 16 ans, je m'en souviens plus, fan de science-fiction, lit de façon boulimique tout un tas de romans qu'il découvre seul au hasard des librairies et des bibliothèques. Devinez de qui je parle. De moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, comme disait je ne sais plus quel auteur.
Mais t'as bien raison, après tout. Pourquoi penser aux autres?
Et cet ado tombe sur un roman d'un auteur anglais, donc John Brunner. Ce roman a un titre choc, Le Troupeau aveugle. Choc parce que c'est évident que ce troupeau, c'est nous tous, c'est l'espèce humaine. Alors l'ado se plonge dans ce roman et il va recevoir une des plus grosses claques littéraires, politiques et existentielles de sa jeune existence. Ce roman se situe aux États-Unis. Dans un futur assez proche, probablement fin du XXe siècle, je vous rappelle qu'on est en 72, et il est structuré comme un kaléidoscope, c'est-à-dire que chaque scène nous présente des personnages différents, ce qui fait qu'on est légèrement perdu au début. Mais, comme tous ces personnages reviennent, on finit peu à peu à se représenter le tableau, le big picture, comme disaient les Américains.
Bon alors, qu'est-ce que nous montre ce tableau ? Dis-nous tout.
Il nous montre, alors c'est découpé sur un an, et chaque chapitre c'est un mois, donc janvier, février, mars, etc. Il nous montre un pays, les États-Unis, où tout le monde souffre de maladies, d'allergies diverses et variées, où tout le monde est en permanence fourré chez le médecin, où les enfants sont encore plus touchés, au point que les gens ont de plus en plus peur de faire des enfants. Un pays où il faut se méfier de l'eau du robinet comme de la peste. Un pays où même la nourriture rend malade, au point qu'il ne reste qu'une grande entreprise dont on considère que les produits alimentaires sont exemples de risque. Et on s'apercevra que c'est une erreur. Un pays où on évoque, chez les voisins d'en face, les Européens, une mer Méditerranée qui est devenue quasiment une mer morte, de toute vie biologique. Un pays qui s'enfonce à mesure que l'année s'écoule dans un chaos de plus en plus incontrôlable. Un pays qui voit la population de toute une ville, Denver, pour ne pas la citer, devenir totalement folle, au point qu'il faut déclarer la loi martiale pour reprendre le contrôle de la situation. Et là, Miss Lemon, elle se dit, mais quel tableau et qui est le personnage central de ce roman ?
Ouais, non, mais j'imagine
n'est-ce pas,
qu'il y en
Miss
a...
Lemon ?
Non, mais je
elle
me dis...
Elle s'en fout !
Non !
Elle s'en fout ! C'est affreux !
Je me dis qu'il n'y en a pas, parce
en fait,
que t'as parlé d'un calédon...
T'aimes pas la science-fiction, c'est ça ? Tu préfères les polars ?
Tu peux te tromper, je suis en train de lire un roman de science-fiction dont je vous parlerai
d'accord.
un petit peu plus tard. Non, en fait, je me dis que comme c'est un calédoscope, il ne doit pas y avoir forcément de héros ou de personnages centrales, mais plutôt une vision éclatée, mais je peux me tromper.
Miss Lemon, Miss Marple, bravo. Eh bien, tu as quasiment raison. Il n'y a pas vraiment de personnage central, mais il y a quand même une trame politique. La société américaine est, au début de ce roman, au bord de l'explosion. Un mouvement de société se développe fortement chez les jeunes. Et ce mouvement, les jeunes qui composent ce mouvement s'appellent eux-mêmes les Trainites. On va dire, quel drôle de nom ?
Ah oui, oui.
C'est le nom de leur leader, Austin Train, mais qui est un leader en mode messie récalcitrant. Là, je fais des références que personne ne connaît, c'est
et
pas grave.
Et pourquoi récalcitrant au juste ?
Parce que Austin Train, qui est un universitaire et dont les travaux ont créé une vraie prise de conscience et une compréhension globale chez cette jeunesse de la gravité de la crise écologique, eh bien Austin Train ne se reconnaît pas du tout dans les mouvements et les actions politiques menées en son nom. Des actions qui vont de manifestations à des attentats à la bombe.
Oui, carrément.
Ouais.
Okay.
Alors dans tout le pays, des jeunes se font passer pour Austin Train et le vrai Austin Train a littéralement disparu de la circulation. Et on ne le retrouvera qu'en fin de roman, quand il va orchestrer son retour pour essayer de provoquer une réaction dans une population américaine au bord de l'effondrement moral et physique.
Bon alors, qu'est-ce qui va arriver ? Tu vois, là, je suis.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, ma chère Miss Lemon, tu sais, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, que je suis devenu Saint Geek Patrick et que je ne spoile pas, donc je ne répondrai pas à ta question.
Bah, c'est bientôt la Saint-Patrick, c'est sûrement pour ça, mais ça ne va pas durer, je te connais.
Ouais. Alors, par contre, ce que je peux te dire, c'est que si la catégorie roman noir, noir, noir de science-fiction n'existe pas, il faut l'inventer pour ce roman.
D'accord. Et l'ado qui a lu ce livre des années 80, qu'est-ce qu'il en a pensé ? De sa lecture, il était terrifié,
L'ado en question vient de comprendre, à la fin de la lecture de ce livre, quelle sera la base de sa pensée politique, j'ai mis des guillemets, si je puis dire, pour le reste de sa vie. Il va d'autre part se souvenir parfaitement, durant les 5 décennies qui vont suivre, du slogan des Trainites, « Arrêtez-vous, me faites mourir ». Et il va se souvenir du tout dernier passage de ce roman. Mais ce que je vais faire, car je suis bon, je vais vous lire ce tout dernier passage. Il se situe en Angleterre, au Royaume-Uni, juste en face, et je vous lis les quelques lignes. Ouvrant la porte au médecin, prête à s'excuser d'avoir les mains enfarinées, elle était en train de faire son pain, Mrs. Byrne fronça les narines. Et si elle la sentait avec le rhume de cerveau qu'elle avait, il fallait que ce soit un gigantesque incendie. « Il faudrait prévenir les pompiers, s'exclama-t-elle. Est-ce que c'est une meule de foin ?»« Les pompiers auraient du chemin à faire, lui dit le médecin gravement. Ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Le vent souffle fort aujourd'hui. » Fin de citation. Vous avez compris, à la fin du roman, les États-Unis sont en flammes et les fumées se ressentent jusqu'en Angleterre.
Ça ressemble quand même au grand feu du Canada
tout à fait.
Il y a quelques mois de cela, il me semble.
Tout
Mais en
à
tout
fait.
Cas, c'est très noir, ton affaire.
Ouais. Et John Brunner aurait pu mettre en exergue de son roman la célèbre citation de Dante à l'entrée des portes de l'enfer. « Voi che entrate, lasciate ogni speranza ». Et là, je place de l'italien dans un roman de science-fiction anglais.
C'est pas grave.
Vous qui entrez, laissez toute espérance. L'adolescent que j'étais, devenu adulte, a repensé à cette faim et à ces odeurs qui franchissent les océans. Quand les fumées des incendies que tu viens d'évoquer, Miss Lemon, australiens, en 2019-2020, ont été perçus sur d'autres continents. Nous y sommes, c'est alors dit l'adolescent devenu adulte, au point de rencontre avec la prédiction de John Brunner.
Alors lisez Le troupeau aveugle, le roman prémonitoire et désespéré de John Brunner, et peut-être buvez une bière pour un peu faire passer tout ça.
Totalement.
La chronique de Geek Patrick.
Alors, pour finir, peut-être sur une note un peu plus optimiste, enfin,
je ne sais pas.
Savez-vous que John Bonner a eu une fin mais rêvée pour un auteur de science-fiction ? Savez-vous comment il est mort, John Bonner ?
Non, je ne sais pas.
Eh bien, il est mort lors d'une convention de science-fiction à Glasgow.
C'est vrai ?
L'équivalent de Molière qui meurt sur scène, quoi.
Il a pris une crise cardiaque. Bon, il n'avait que 60 ans, c'était moins long. Mais il est mort lors d'une convention de science-fiction, donc peut-être ça ferait rêver.
Peux-tu
citer
son roman le plus célèbre, mis à part ? Parce que celui-là, ce n'est pas le plus célèbre de John Bonner.
Il essaie de te coincer depuis le début.
Je vais essayer de coincer Maître Jérôme.
Il a fait une série très, très récompensé dans les années 70. C'est le plus connu, c'est Tous à Zanzibar.
Voilà, c'est
dans Zanzibar.
Tout à fait. C'est vraiment son plus grand succès.
Il y a aussi L'Orbite déchiquetée. Il a, ouais, il a écrit plusieurs romans à la suite comme
tout
ça.
Tout à fait. Des thématiques sur un futur proche. Oui. C'est des très, très grands romans quand même. Tous à Zanzibar, c'est très fort.
Ils ne sont pas forcément tous faciles d'accès, mais qui sont bien. Merci Patrick. Nous allons passer à... Nous allons aller à Londres, en fait, au début des années 50, avec Miss Lemon.
L'étoffe d'un héros.
Alors, nous sommes à Londres début décembre 1952, où il y a un épais brouillard de pollution qui va planer sur la ville et ses environs pendant 5 jours, du 5 au 9 décembre. C'est ce qu'on appelle le grand brouillard de Londres, en anglais « the big smoke » ou « the great smog ». Comment ça s'explique ? Bien, cette période fait très froid à Londres, on est début décembre, on se chauffe au charbon. Donc, dans toutes les habitations, les poêles à charbon rougeoient, les usines électriques qui sont également alimentés au charbon, tournent à plein régime.
Ouais.
Recrache dans l'air, quoi donc ? Eh bien, du dioxyde de soufre, du gaz fluoré, de l'acide chlorhydrique. Et tout cela s'ajoute aux fumées recrachées par les usines, les locomotives à vapeur également à l'époque, et les moteurs à essence ou au diesel. Et comme à Donora, quelques années auparavant, eh bien, il y a une inversion de température, encore elle, qui est associée à une absence de vent, qui va favoriser la formation de ce brouillard qui est jaunâtre, une fois de plus, qui est dans lequel en plus se mêlent des particules de suie. Hein, ça fait un mélange un peu rigolo. Et donc, c'est une belle purée de pois, ce que les Anglais appellent un pea super. Une belle purée de pois. Les Londoniens sont assez habitués depuis le XVIIe siècle, en fait. On a des témoignages à Londres de purée de pois.
Totalement, oui.
Mais là, il s'agit d'une purée de pois qui est bien plus importante que tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent, en fait.
Ouais.
Et donc, les conséquences, c'est qu'on n'y voit plus à un mètre, même dans la journée. Le brouillard va pénétrer même dans les habitations. Il y a des nombreux accidents de circulation, au point que la circulation des bus est interrompue à certains moments dans la journée, parce qu'ils n'arrivent plus à s'orienter. Et seul le métro fonctionne. Et ce qui est pire encore, c'est que les matchs de rugby et de football doivent être reportés, comme l'annonce de la BBC à l'époque.
Là, vraiment, le capitalisme, ça fait du dégât. Voilà.
Miss Lemon nous donnera plus d'infos tout à l'heure. Il y a quand même des bénéficiaires de ce climat. C'est la pègre qui profite du brouillard pour commettre des vols et dévaliser les passants, puisqu'ils peuvent facilement disparaître dans le brouillard.
Eh oui, c'est pas perdu pour tout le monde.
Voilà. Donc ça commence le 5 décembre. Le 9 décembre, le vent commence à chasser le brouillard, la température remonte et la vie reprend son cours, ou presque, puisque 4000 personnes sont mortes de problèmes respiratoires pendant ces quelques jours. Et que dans les mois qui suivent, on estime qu'il y a environ 8000 personnes supplémentaires qui vont décéder de problèmes respiratoires qui ont été...
issus de cette semaine
dans cette
noire,
semaine tragique, dans du grand brouillard. Donc ça, c'est pour situer le cadre. Alors, très vite, en fait, on a des romanciers qui vont s'emparer de cet événement pour en situer leurs histoires. Alors, on a, dès 1954, un roman qui s'appelle « Brume » en français, « Shrouds of Darkness » en anglais, d'une romancière qui s'appelle E.C.R. Lorac, un roman qui a été traduit dans la collection Le Masque à l'époque, qui se passe durant ce grand brouillard. Plus récemment, on a plusieurs autres romans. Il y a notamment, en 2018, Anna Freeman, qui a écrit un roman qui s'appelle « 5 jours de brouillard », donc situé vraiment pendant ces jours-là. et puis un romancier, Boris Starling, qui publie en 2006 un roman qui s'appelle Visibility, dont Miss Lemon va à présent nous parler.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dinlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau.
Voilà pour l'équipe de 23 pas du mystère. Alors évidemment, l'extrait ne parlait pas de pollution, mais plutôt de comment on fait de la pollution, tout le standing, comme vous voulez, des années 50, de l'après-guerre. Et donc j'espère que vous avez apprécié ce morceau de Boris Vian, qui nous explique un petit peu là, et puis qui nous permet de rester dans les 50s, puisque le roman de Boris Starling se passe donc pendant cette période de brouillard de décembre 1952 à Londres. Voilà. Donc, cette chronique, bon, qui est annonciatrice de printemps et de la verdure, évidemment, avec le roman Visibility, on n'est pas vraiment au top des petites fleurs, etc. Mais ça nous fait réfléchir, en fait, sur le respect de notre environnement. Donc, c'est un roman qui, en effet, n'est pas du tout d'époque. Et Boris Starling est d'abord un historien. Et donc, ensuite un écrivain, donc il retrace bien le contexte. Et peut-être la différence, je dirais, c'est qu'il a quand même la vue de quelqu'un des années 2000 sur des événements qui sont passés dans les années 50. Donc, il peut y avoir, de mon point de vue, des réflexions où il est un petit peu plus à la page que les gens des années 50. Voilà. Donc, ce roman se focalise en fait donc sur cette partie de brouillard à Londres, on va dire, pendant 4 jours, mais débute légèrement un petit peu avant, la veille au soir. D'accord ? Il s'agit d'un épisode inédit, donc on a dit, de pollution atmosphérique. Et en fait, on utilise ça comme toile de fond pour une investigation policière, puisqu'une personne est tuée. Et en tout cas, on la retrouve noyée dans une pièce d'eau dans un parc londonien où on ne voit absolument rien. Je ne vous dirai pas quel parc, sauf il y a une statue de Peter Pan, donc c'est à vous de retrouver ça. Ça vous fait une énigme. Et on pense que la personne, elle a buté et que, ne voyant rien, elle s'est noyée. Donc on fait intervenir toute une équipe, donc c'est Scotland Yard, bien évidemment. Et dans cette équipe, il y a une plongeuse qui va retrouver l'imperméable, qui va donc dévoiler des informations sur la personne en fait qui est noyée et qui finalement n'est pas aussi noyée que ça. Je pense qu'on l'a un peu noyée aussi.
D'accord.
Donc, ce roman Visibility est intéressant parce que c'est tout le contraire de la visibilité. C'est-à-dire, un, la personne, elle ne s'est pas noyée accidentellement, elle a donc été poussée et on découvrira, je ne vous dirai pas pourquoi. Ensuite, la plongeuse, parce qu'il s'agit d'une femme dans les années 50, ce qui est un fait extraordinaire, est une femme aveugle et qui n'empêche pas de plonger, puisque de toute façon, quand tu plonges, tu ne vois pas grand-chose, et donc est très adroite. Donc il y a une deuxième part de non-visibilité, on va dire, en plus du brouillard. Notre détective héros, donc Herbert Smith, est aussi un peu dans le brouillard, parce qu'avant d'être à Scotland Yard, il était au MI5. Donc si vous ne connaissez pas le MI5, moi je me suis renseignée. Donc c'est la sécurité.
Sécurité intérieure.
Et tout à fait. Et donc à cette époque des années 50, bien sûr, il y a une grosse activité de surveillance parce qu'il y a des savants et des scientifiques qui disparaissent et qui partent à l'Est.
Oui, tout à fait.
Donc il y a l'œil de Moscou un petit peu partout.
Des cas très spectaculaires. Hein.
Et donc, dans cette affaire, le MI5 est mélangé, un petit peu mixé et cache bien évidemment des choses puisqu'on ne va pas révéler des choses. Et M. Herbert Smith, qui a été rétrogradé quelque part à Scotland Yard parce qu'il a, il avait vu qu'un espion allait disparaître et son chef lui a dit « Écoute, moi je suis parti de golf ce week-end, on s'en occupera lundi. » Et donc bien sûr, la personne a disparu et ça a été assez frais à lui. Et bon, finalement, l'affaire n'est pas si simple, mais du coup, il y a une autre non-visibilité parce qu'il doit retourner au MI5, revoir son ancien responsable et arriver à démêler des choses avec toutes sortes de chances. Les personnes essaient toujours de lui raconter des balivernes puisque ce sont des espions. Il y a aussi des personnes, des faux reporters moscovites. Donc, on n'est pas non plus dans une grande visibilité. Il y a aussi la non-visibilité de ce que va dévoiler la science. Et là, je ne vais pas vous le dire. Je peux juste vous mettre sur les traces de Crick et Watson, ou Watson et Crick, si vous voulez. Et là, je n'en dirai pas plus.
J'en dis un petit peu plus ou pas ?
Non. Et donc, c'est cette affaire n'est pas non plus visible parce qu'en fait, voilà, tout à fait, je vois...
Je fais des gestes, c'est très radiophonique.
Voilà, Patrick fait un petit peu des gestes comme s'il était en hélicoptère, je n'en dirai pas plus. Et donc, tout baigne un peu dans ce climat d'invisibilité. Et la seule chose qui est vraiment tangible va être les descriptions de... Alors, comme moi, je faisais sur le textile, de textiles gras recouverts de substances noirâtres, y compris les serviettes de bain.
Je ne sais pas
si vous voyez. Et le héros est très se dit bah, c'est bien parce que c'est vraiment très sale de partout, tout est recouvert. Alors bon, cette personne est aveugle, alors elle ne s'en rend pas forcément compte quand elle vient chez lui. Mais il dit mais bon, c'est pas grave, on a tellement froid qu'on remet du charbon. Donc en fait, on sait que c'est sans fin. Et donc ça, c'est aussi le côté qui est... pas visible parce que tu t'alimentes sans cesse la machine. Et puis finalement, pour moi, la visibilité, donc plus que c'est le contraire, c'est plutôt un petit peu, je dirais, tout est masqué. Et pour moi, c'était plus un petit peu la confusion des sentiments. Parce qu'il y a du ressentiment entre les personnes qui se connaissent, qui ont des antériorités. Les sentiments des gens qui n'arrivent pas forcément non plus à s'exprimer, Herbert avec sa mère ou avec Anna. Donc c'est une confusion générale, peut-être liée à ces quelques jours. Et la seule chose dont on est sûr, c'est que ça sent très mauvais. Ça sent apparemment l'œuf pourri. Et que les personnes essaient de se masquer tant que possible pour pas respirer, parce que c'est vraiment du soufre en fait qui respire. Donc
oui,
c'est orange.
C'est le soufre qui sent cette odeur.
Ouais, voilà. On est dans l'orange. On est dans le soufre. Et puis, on voit trop rien ni dans cette affaire. Bon, finalement, si, il va découvrir bien évidemment, parce que comme c'est un ancien du MI5, il est trop fort. Mais c'est très, tout est ordonné, mais tout est vraiment très confus parce qu'on voit rien nulle part. Donc, je pense qu'on n'a pas non plus les idées claires. Et le seul endroit où on voit vraiment, c'est dans le métro. Donc ça, c'est ce que tu as dit. En effet, les personnes vont dans le métro pour quelque part se réfugier. Et comme les appartements sont des passoires énergétiques, on dirait aujourd'hui, donc tout finit par rentrer par les fenêtres, par les fissures dans les appartements. Donc tout est contaminé en fait et tu peux plus respirer normalement. Et il y a beaucoup de feu, en effet, les voitures sont au milieu des routes. Et a priori, il y avait aussi le côté historique, plus d'avions. Et puis la Tamise était complètement bloquée, donc les bateaux aussi ne circulaient plus. Voilà. Alors le roman est intéressant, il y a plein de rebondissements. Et surtout à la fin, et on voit aussi que notre auteur a l'habitude d'être scénariste. Parce que la description, enfin, tout s'amplifie et s'accélère à la fin et on imagine facilement une scène filmée, en fait. Voilà. Donc là, c'est peut-être un petit peu... ça fait un peu moins années 50, mais voilà, ça a le mérite d'être un petit peu... de mettre un peu de l'action. Voilà. Donc, je vous invite à lire si vous ne connaissez pas Visibility et ne vous laissez pas repousser par l'épaisseur du livre.
Eh bien, pour conclure en beauté sur la pollution de l'air, on va parler d'automobiles recrachant diverses substances nocives dans l'atmosphère. Virage à la corne. Une chronique de Nicolas Verdun.
Alors aujourd'hui, on fait un détour par la série noire avec l'un de ses auteurs les plus représentatifs des débuts, Dale Keen. Dale Keen qui naît en 1904 à Chicago, d'un père suédois et d'une mère irlandaise. Il publie des dizaines de romans policiers dans les années 40 et 50. Et faut dire que c'est vrai, souvent il raconte la même histoire, celle d'un homme traqué, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et il doit tout faire pour le prouver. Mais dans le roman qui nous intéresse aujourd'hui, il en va tout autrement. Le livre s'intitule « Le diable et ses pompes ». C'est le 235e titre paru dans la série noire chez Gallimard. Et son titre original est « Sleep with the Devil », publié en 1954. Et cette fois, le héros n'est pas innocent. Au contraire, c'est même un parfait salaud. Un escroc meurtrier nommé Les Ferron, capable d'endosser toutes les identités, vendeur de bibles, instituteur, fermier, usurier et même mannequin pour magazine. On a là un roman pulp parfait, dur, amoral, psychopathe et mené tambour battant. Et pour mener une nouvelle escroquerie, ben Ferron il veut séduire Amy, la fille d'un riche fermier d'une petite localité appelée New Hope, à une centaine de kilomètres de New York. Pour gagner la confiance de la famille, il se déguise. Et lui, le New-Yorkais amateur de luxe et de belles fringues, porte un complet luisant de serge bleu et une chemise blanche de mauvaise qualité. Il se fait passer pour Paul Parrish, ancien instituteur devenu colporteur de Bible et d'articles de piété. Et l'arnaque passe aussi par le choix de la voiture. Car pour incarner Paul Parrish, Ferron doit conduire une vieille Plymouth, une voiture modeste, presque honteuse pour lui qui roule habituellement en Cadillac. Alors là, je vous lis un extrait. Il détourna la tête pour contempler la nuit noire par les fenêtres ouvertes. À moins de 150 km de là, c'était New York Times Square et son tumulte incessant. Pas même une heure et demie au volant de son roadster Cadillac jaune. 210 chevaux sous le capot qui l'attendaient, planqué dans son garage, à l'entrée du pont George Washington. Naturellement, dans la vieille Plymouth avec laquelle il venait à New Hope, il fallait un peu plus de temps. Un de ces jours, l'antique guimbarde allait s'écrouler en pièces détachées. Mais elle faisait partie du personnage. Les colporteurs en Bible ne roulaient pas en Cadillac jaune. Alors la Plymouth, est l'une des grandes voitures populaires américaines de l'après-guerre. Avec Ford et Chevrolet, elle forme le trio même des automobiles accessibles aux classes moyennes. La Cadillac, au contraire, représente le luxe automobile américain. Une division prestigieuse de General Motors construite à Détroit, célèbre pour ses moteurs puissants et ses carrosseries pleines de chrome. Et Ferron, lui, préfère évidemment ce genre de voiture. Voici un passage où il évoque sa Cadillac. La voiture jaune, capote baissée, attendait devant l'immeuble. Ferron se mit à longer Central Park vers le sud, puis s'engagea dans l'avenue des Deux Amériques. Il aimait se sentir au milieu des rues encombrées. Il adorait la foule, le mouvement, le bruit et les couleurs. Les grands espaces vides, c'était bon pour les cutéreux. Tout en conduisant, il jeta un coup d'œil de côté. Il aimait même Lydia. Elle était aussi jolie, peut-être même plus jolie qu'Amy, dans un genre un peu frêle et sophistiqué. Alors chez Dakin, la voiture est toujours un signe social. La Plymouth raconte le mensonge, la Cadillac raconte la vraie nature du personnage. Ferron peut changer de costume, de métier, de nom. Mais ses rêves automobiles, eux, ne mentent pas. Un peu plus loin dans le roman, on retrouve Ferron dans New York au volant de sa Cadillac, arpentant les rues de Manhattan. Ferron redescendit la 45e rue pour retrouver sa voiture. Son estomac gargouillait agréablement. Le soleil lui semblait moins brûlant. Quatre bières accompagnées de deux doubles whisky l'avaient plongé dans une douce euphorie. Il alluma une cigarette en s'asseyant avec précaution sur la banquette de cuir surchauffée. Autant profiter des petits plaisirs de l'existence pendant qu'il le pouvait. Paul Parrish ne pourrait ni boire, ni fumer, ni jouer aux courses. Mais dans un roman noir, la voiture n'est jamais seulement un décor. Elle devient aussi un outil du crime. Et le moment le plus critique survient lorsque Ferron doit transporter un cadavre, un macabre, comme dit l'argot du polar dans la traduction de la série noire. Et précisément à ce moment-là, la Plymouth refuse de démarrer. Il pleuvait à seaux. Le temps de franchir les quelques mètres qui le séparaient de sa voiture, il fut trempé, ainsi que son funèbre fardeau. Il mit le contact, puis écrasa du pied le démarreur. La Plymouth ne brancha pas. Bon Dieu ! Et cette guimbarde ne démarrait pas ! Il se souvint alors des accus débranchés. La fuite finale se fait dans une autre voiture américaine, célèbre, une Buick. La Buick Roadmaster dans les années 50 est une grande berline puissante, reconnaissable à sa calandre dentelée. Dans le roman de Dakin, la voiture semble presque devenir un animal. Les pneus patinèrent dans la neige, puis mordirent sur le sol gelé, et la grosse Buick bondit en avant dans un rugissement de moteur sur la route de Palisade Falls, avec des embardées terribles. Ferron, cramponné au volant, entendit ou crut entendre derrière lui une petite voix crier « Paul !» Puis le ronflement du moteur couvrit tous les autres bruits, sauf le martèlement de son propre cœur. À 90, 100, 120, 130 à l'heure, il filait pour fuir ses forcenés aux visages farouches qui se précipitaient sur leur propre voiture. La poursuite s'achève finalement dans une voiture de police à la marque non précisée. Ferron s'y engouffre presque comme dans un taxi pour l'enfer. La Plymouth pour mentir, la Cadillac pour rêver, la Buick pour fuir, et puis la voiture de flic. Cette fois, Ferron ne fuit plus.
Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, mutantes et mutants de tout poil, il est temps de nous quitter. Ne manquez pas, comme chaque mois, de consulter notre podcast sur le site radio-calade.fr à la rubrique émissions culturelles, où vous retrouverez donc les références des ouvrages et des articles dont il a été question, avec des informations complémentaires, bien sûr, pour les plus curieux. Et où vous pourrez principalement réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller prendre l'air, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
En ce mois de mars printanier. Alors le mois prochain, eh bien, ça sera un peu plus drôle peut-être, puisqu'on va consacrer notre émission à des auteurs uniquement féminins, donc auteurs ou autrices, suivant vos préférences. Voilà, avec un beau panel en roman policier, science-fiction et autres. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au mois prochain.
Au mois prochain.
Au revoir.
À bientôt.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Calade, ma radio. Sur le 100.9 et radio-calade.fr.